Tout un monde,
Marie-Hélène Fraissé,
le magazine des cultures et des identités en mouvement. Si tu veux la paix, prépare la guerre, un adage antique plus que jamais d'actualité et qu'on a trop oublié sans doute pendant la longue euphorie des 70 années post-guerre mondiale, euphorie d'ailleurs limitée au monde dit occidental, pressé de pousser ses avantages économiques en profitant de toutes les opportunités financières de la globalisation et sans penser aux dégâts collatéraux, aux effets pervers qui lui reviennent maintenant à la figure. Remettre en perspective la guerre et la violence avec lucidité, c'est ce à quoi s'emploie Jean-Claude Guilbeault dans un essai historique très documenté, mais qui procède aussi d'une expérience de terrain comme reporter de guerre. Ce livre a déjà un très grand succès et il s'appelle « Le tourment de la guerre ». Jean-Claude Guilbeault est avec nous pendant les 30 minutes qui suivent. Bonjour Jean-Claude Guilbeault.
Bonjour.
Vous aurez reconnu ces tambours de
Absolument.
La vieille garde, car l'épopée napoléonienne est très présente dans l'enquête que vous avez menée pour ce livre.
Disons la campagne de 1812, la campagne de Russie, aller-retour, qui a fait 400 000 morts, elle est très présente parce que, je vous en explique dans le livre, c'est un moment de basculement. Où on quitte la guerre relativement contenue pendant des siècles, la guerre des princes, la guerre en dentelle, on a pu dire, pour basculer dans la sauvagerie qui a débouché ensuite sur la guerre de sécession aux États-Unis, sur la guerre de 14, sur la Deuxième Guerre mondiale. On sort de la guerre contrôlée et ce moment de bascule, il est illustré par la campagne de 1812 puisqu'elle touche aux deux guerres en même temps. Elle est le moment de transition. Et c'est pour ça que je me suis passionné depuis longtemps pour cette campagne, pas tellement pour Napoléon en tant que tel, mais pour ce moment qui ne dure que quelques mois, du 24 juin 1812 au 5 décembre 1812. Et là, tout d'un coup, tout bascule. Parce que d'un côté, Napoléon, vous savez, il veut créer une noblesse d'empire. Donc par certains côtés, il touche à l'ancien monde qu'il veut reconstituer avec cette capacité de reconnaître le mérite de l'ennemi, de lui rendre hommage, etc. C'est vrai que j'ai été à Solferino, par exemple, puisque je suis retourné dans les principaux endroits, et qu'à Solferino, c'est très impressionnant, il y a un mausolée, c'est une bataille épouvantable, Solferino, qui a fait des milliers de morts brûlés dans le feu, et tout, ça a été terrifiant.
Bien que ce soit une station de métro.
Oui, mais à Solferino...
Qu'y a-t-il à célébrer ?
À Solferino, Napoléon a fait rendre hommage, les hommages militaires, les honneurs militaires, à un général russe, qu'il avait ardemment combattu, et il y a aujourd'hui à Solferino, parmi les mausolées, il y a ce mausolée qui est un don de la grande armée de Napoléon à son ennemi, pour reconnaître sa vaillance. Donc il y a ce côté-là, comme ça, qui touche à l'ancienne courtoisie d'autrefois, et puis il y a des moments de pure sauvagerie absolue, dont le plus emblématique, et qui a impressionné tous les historiens de la guerre, etc., c'est la bataille que les Russes appellent la bataille de Borodino, et que nous on appelle la bataille de la Moscova. Et cette bataille, terrifiante, elle fait en 10 heures 70 000 victimes et elle va faire basculer 50 ans après la vie et la pensée de quelqu'un comme Tolstoï.
Alors on sait bien, Jean-Claude Guilbeault, que vous êtes un homme de terrain, hein, vous n'êtes pas un géopoliticien en chambre, un pur théoricien, vous êtes allé beaucoup sur les fronts de guerre, on en parlera peut-être tout à l'heure. On sait que cette distance par rapport à votre métier, vous la preniez petit à petit, cette distance critique, puisqu'on a vu apparaître dans des livres précédents, et je pense notamment à « Une autre vie est possible » et « Je n'ai plus peur ». Il y avait quelques paragraphes et même pages consacrées à cette forme d'autocritique où vous vous demandiez, au fond, qu'est-ce que j'allais chercher? Quelle jouissance inavouable allais-je chercher sur ces fronts de guerre que j'ai fréquentés si longtemps? Vous êtes pris Albert-Londres, notamment, pour vos reportages de guerre.
Je vais vous dire les choses très simplement. J'ai passé ma vie liée à la guerre, en effet, sans l'avoir voulu. Moi, je voulais être professeur de droit, donc je préparais une agrégation de droit à Bordeaux avec un grand protestant, un grand théoricien protestant, entre un théologien qui est Jacques Ellul, je suis un enfant de Jacques Ellul, qui était lui carrément non-violent, et j'étais, moi, à l'époque, résolument antimilitariste. Et puis, le hasard, c'est mai 68, a fait qu'au lieu de devenir professeur de droit, au lieu de faire les 9 ans de préparation à la grecque, j'en ai fait que 6, et puis je suis devenu journaliste.
Et là, sans... Et au lieu d'aller travailler en usine, comme le 68ard moyen, vous êtes
le directeur de Sud-Ouest à Bordeaux, j'avais 24 ans, il a cru me faire plaisir, me récompenser, m'honorer, etc. Et il m'a fait cette confidence, il m'a dit, Jean-Claude, pour vous récompenser de nous choisir, plutôt que de choisir l'université, je vais vous envoyer faire votre premier reportage de guerre. Donc c'était une phrase un peu folle.
Oui, parce que c'est la noblesse un peu inavouée, finalement, à l'intérieur des rédactions, le correspondant de guerre.
Oui, c'était aussi, je l'ai su après, c'était aussi du côté de Henri Amouroux, ce qui était d'ailleurs très légitime. Il ne se guérissait pas du fait que le Grand Prix Albert-Londres, le prix prestigieux, n'était jamais donné à la presse de province. Et il vivait cette humiliation des grands quotidiens de province. Au fait, le prix Albert-Londres était trusté, comme il disait, par Le Figaro, par Le Monde, etc. Avec une exception pour La Dépêche du Midi, qui était le journal concurrent de Sud-Ouest, qui avait eu un prix Albert-Londres en la personne de René Moriès. Et donc, Henri Amouroux, je l'ai su après, voulait me programmer. Vous savez comme on entraîne un jeune cheval. Il voulait me programmer pour que je puisse me présenter au prix Albert-Londres pour Sud-Ouest. Ça veut dire qu'il m'a envoyé au Biafra, puis ensuite au Vietnam, très vite, et puis au Cambodge, et puis la guerre entre l'Inde et le Pakistan. J'ai vécu, donc c'est les années 68, 69, 70, 71, ces 4 années, je les ai vécues dans la guerre, quoi. Et c'est là où tout d'un coup j'ai ressenti, je me souviens, c'était au tout début, au Vietnam, j'ai ressenti un trouble qui va m'occuper ensuite pendant de très longues années. C'est tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'au Vietnam, et là je parle de moi, alors que j'étais non violent, j'étais antimilitariste, même si j'avais un père général, j'étais résolument, comme les gens de ma génération, on était antimilitariste. Et je me suis rendu compte que tout d'un coup, j'étais moi-même capable d'éprouver une espèce de jubilation de gosse en faisant la guerre. C'est-à-dire en faisant des reportages qui accompagnaient des troupes américaines ou vietnamiennes. J'ai par exemple fait une attaque en piqué, un bombardement en piqué sur un Sky Raider de l'armée vietnamienne. J'ai fait une ouverture de route à bord d'hélicoptères qui consiste à arroser à la mitrailleuse lourde pendant 80 km. Et comment vous dire, pour dire la vérité, j'ai prouvé du plaisir. Comme un gosse qui joue aux Indiens. Et immédiatement après, j'ai prouvé un dégoût pour le plaisir et une honte de moi-même pour le plaisir que j'avais ressenti. Et comme j'ai ensuite constaté que tous mes confrères vivaient le même tourment...
Mais n'en parlaient pas.
Mais n'en parlaient jamais. Ça m'a tourmenté. Je me suis dit, mais il faudra qu'un jour j'aille au bout de ce trouble. Alors moi, je l'avais fait un petit peu, en effet, quelques paragraphes récents dans quelques
livres.
Mais
on sentait quand même alliez à un moment...
Et j'avais fait une fois...
Explorer ce sentiment.
J'avais fait une fois, mais un bref papier littéraire... à la demande de Maurice Nadeau dans la Quinzaine littéraire. Et qui d'ailleurs m'avait valu les sarcasmes et les moqueries de Saint-Germain-des-Prés, quoi. Voilà un crétin qui dit qu'il aime la guerre. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire que chaque être humain, même le plus pacifiste, est capable de trouver ce que j'ai pris l'habitude d'appeler les plaisirs dégoûtants.
Vous savez ce terme de Schadenfreude?
Oui, hein, oui, absolument.
Cette jubilation inavouable, quoi.
Et c'est pour ça que très longtemps, je me suis dit, comme je savais que ce livre de réflexion sur la guerre, j'ai passé 26 ans dans la guerre, quoi, 26 ans comme correspondant de guerre, je savais comment dire, ce livre m'attendait au tournant. Et que je ne pourrais le faire que si j'acceptais de parler à la première personne et de cracher, quoi, des choses que j'avais envie de dire, et surtout d'approfondir. Et c'est pour ça que le premier chapitre de ce livre s'appelle « Dieu que la guerre est jolie ».
Apollinaire.
Oui, et j'ai fait un travail qui m'a stupéfié moi-même. C'est-à-dire, j'ai découvert ce que j'ignorais, comme tous les gens de ma génération, et comme d'ailleurs la plupart des gens d'aujourd'hui, c'est que nous avons dans notre mémoire collective plusieurs siècles de grands écrivains et de grands auteurs, de grands livres qui font l'éloge de la guerre. L'éloge de la guerre était la règle jusqu'à une date relativement récente, jusqu'à cette sauvagerie de la guerre de 14-18 et tout. Et si vous prenez Dostoïevski, je sais pas, Joseph de Maistre, tous les grands écrivains, y compris d'ailleurs tardivement Teilhard de Chardin, qui fait l'éloge de la guerre, de la guerre de 14.
Dans quoi ?
Absolument, dans un texte fameux que je cite. Il fait même l'éloge, il dit, il fait l'éloge de ces matins à Ypres où il sent l'odeur du chlore, c'est-à-dire des gaz asphyxiants. C'est un truc.
L'hyperite.
C'est un truc étonnant. Ça veut dire que j'ai enfin compris que nous avions oublié cela et nous étions dans le déni et qu'il fallait maintenant nous en ressouvenir. Parce que on ne peut pas expliquer des choses aussi barbares que l'engagement de ces jeunes crétins qui vont se faire tuer en Syrie ou en Irak ou chez nous. On ne peut pas expliquer cette folie de ces jeunes qui quelquefois sont même pas musulmans si on ne prend pas en compte le fait que ils y vont par cette espèce de jouissance guerrière, y compris jusqu'à la mort, quoi. Si on n'a pas ça en tête, et il y a très peu d'intellectuels qui ont le courage d'évoquer cela. Je fais une parenthèse pour Olivier Roy, qui est un des rares à avoir le courage de le dire, que au fond, l'excitation est un motif important.
La gloire, le dépassement.
Voilà. Et j'ai trouvé des textes. J'aurais pu faire une anthologie de l'éloge de la guerre qui aurait été stupéfiante. Mais donc j'ai choisi de faire quelques brèves citations dans ce premier chapitre, qui est immédiatement suivi d'un chapitre qui s'appelle ce trémoussement hideux, c'est-à-dire l'autre face de la guerre, c'est-à-dire le dégoût, l'horreur.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening come, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide.
Le goût inavouable de la guerre aujourd'hui dans tout un monde. Nous sommes avec Jean-Claude Guibaud. Jean-Claude Guibaud, c'est vous qui m'avez suggéré Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. C'est une chanson que nous connaissons tous, mais je crois que beaucoup d'entre nous ignoraient qu'elle est reliée à la guerre du Vietnam.
Elle est très reliée à un épisode particulier de la guerre du Vietnam qui se passe en 67 et qui est la bataille de Khe San, où je suis retourné à plusieurs reprises sur le champ de bataille. La bataille de Khe San a failli être le Dien Bien Phu américain. C'est-à-dire que ça a failli être une défaite cuisante pour l'armée américaine. Ça a été une bataille épouvantable. Et les États-Unis n'ont été sauvés que par la puissance de leur aviation. Mais comme vous le savez sans doute, au Vietnam, les Afro-Américains et les pauvres étaient surreprésentés dans l'armée américaine. Évidemment, c'était... Et donc les Afro-Américains... Au moment de la bataille de Khe San, Otis Redding vient de mourir. Il est mort au début de la bataille. Et évidemment, tous les Afro-Américains qui étaient présents à Khe San se sont mis à diffuser la musique. On écoute beaucoup de la musique, vous savez, pendant la guerre. Ils avaient des grandes chaînes haute fidélité de marque Akai, de marque japonaise, je me souviens encore. Et donc, ils ont diffusé finalement cette chanson Dock of the Bay. Elle est devenue emblématique de la bataille de Khe San et c'est resté dans la mémoire de tous les soldats américains. À telle enseigne que quand moi j'ai commencé à aller au Vietnam, je le raconte dans le livre, j'ai dormi la première nuit dans une base américaine, accréditée auprès de l'armée américaine, et dans la chambre à côté, alors que la base a été attaquée pendant la nuit aux mortiers, dès que les mortiers sont arrêtés, qu'est-ce que j'ai entendu dans le dortoir d'à côté? Les Afro-Américains qui mettaient à fond Otis Redding, Dock of the Bay. Donc, et ça a été bien raconté dans un livre magnifique sur le Vietnam, très violent, de Michael Hare, qui s'appelle Putain de mort. Je sais pas si vous le... C'est un livre qui a été traduit, qui s'appelle Dispatch en anglais, qui est largement consacré à la bataille de Khaisan, et il s'étend longuement sur cette histoire d'Otis Redding.
Alors justement, dans ce livre, Jean-Claude Guibaud, Le tourment de la guerre, vous analysez ce que peut être justement cette émotion, cette décharge affective, enfin c'est ce côté presque orgasmique ressenti par les combattants, les jeunes combattants, à la fois dans une espèce d'exaltation et en même temps dans presque destruction des états psychiques vraiment délétères et certains traumatismes dont certains ne se remettent pas. C'est-à-dire que c'est un lieu d'épreuve. Ceux qui s'en sortent vivants en sortent rehaussés par rapport à eux-mêmes. Et évidemment, beaucoup s'en sortent brisés. Et vous analysez très finement tous ces états liés à la guerre qui font que la guerre est mémorable, inoubliable pour tous ceux qui l'ont vécu.
Oui. Ben, comment vous dire, la guerre, c'est le lieu de l'épouvante absolue. Et c'est en même temps le lieu des relations humaines, y compris les meilleures, portées à leur maximum. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'amitié aussi forte que celle qui se lie pendant la guerre et dans la peur et dans le combat, etc. Et en même temps, c'est le lieu de l'épouvante, parce que, bon, je ne vais pas raconter ma vie, je ne suis pas là pour ça, mais j'ai quelques amis qui ont été tués au Vietnam ou ailleurs. Et c'est vrai que je suis resté inconsolable de leur mort. Je pense notamment au photographe Michel Laurent, avec qui j'avais beaucoup travaillé en Éthiopie, ailleurs, etc., et qui a été le dernier mort de la guerre du Vietnam. Il a été mort à 60 km de Saïgon, le jour même de la fin de la guerre. Et c'est vrai que...
Vous avez fait tandem avec Depardon aussi, beaucoup.
J'ai fait tandem avec Depardon. On est retourné au Vietnam et on est retourné à l'endroit où Michel Laurent avait été tué, parce que on était aussi émus l'un que l'autre. Lui avait perdu Gilles Caron, qui est le fondateur de l'agence Gamma, qui lui avait été tué au Cambodge.
Donc on a 33 tous, ans, oui, quelque chose comme ça.
On a tous des deuils, si vous voulez, et on sait très bien que la guerre est horrible. Mais, et en même temps, elle est faite de choses exaltantes. Je me suis rendu compte après, en continuant de couvrir les guerres, en Afrique, en Érythrée, au Liban, ailleurs, je me suis rendu compte que cette jubilation terrible, elle n'était pas propre à la guerre du Vietnam, elle pouvait exister partout. J'ai été à plusieurs reprises dans les maquis des Fronts Populaires de Libération de l'Érythrée, cette guerre qui a duré 30 ans, où il y avait 30% de femmes combattantes, et j'ai trouvé chez eux la même joie de faire la guerre, étonnante, étrange. J'ai trouvé ça en Israël, la guerre du Kippour. J'ai trouvé des soldats de Tsahal, dont le niveau intellectuel était en général plutôt élevé par rapport à d'autres guerres, qui... Je suis parti un jour avec un escadron de blindés vers le canal de Suez, au début de la guerre, et ben, ils étaient dans la joie, quoi. Comme dans un western, vous comprenez ce que je veux dire, et en même temps capable de ressentir l'horreur aussi. Donc j'ai retrouvé ça partout.
Pourquoi est-ce un secret si bien gardé ? Parce que si on le dévoile, on peut comprendre, comme vous le disiez tout à l'heure, quelque chose du comportement des jeunes djihadistes tout d'un coup face à une sorte d'enjeu qui leur est proposé.
C'est difficile
extrême.
C'est difficile à dire, vous savez,
C'est l'épreuve.
Parce qu'on a honte de soi-même après, mais on a terriblement honte. Je vous donne un exemple que j'évoque.
Certains n'ont pas honte. Le héros type n'a pas honte. Le jeune djihadiste qui
va être un héros définitif. Oui. Si vous voulez, j'appartiens à une génération.
Parce que vous êtes témoin en tant que journaliste. Vous n'êtes pas protagoniste.
J'appartiens à une génération, si vous voulez, de l'après Lucien Baudard. Moi, c'est Lucien Baudard qui m'a remis le prix Albert Londres, donc je parle de lui avec tendresse.
On disait qu'il était en marge des conflits au bord de la piscine, en train de faire tourner les glaçons dans verre de whisky.
Je ne veux pas être désobligeant, mais disons, après la génération des rouleurs de mécanique, vous savez, que tous ces articles en disant « je suis sous les bombes, ça pète autour de moi », etc. Moi, j'ai commencé vraiment à faire du reportage de guerre pour le compte du Monde. On était plutôt dans une pudeur, quoi. Il m'est arrivé des choses personnellement très dangereuse au Vietnam ou ailleurs. J'ai jamais accepté d'en faire un article, par exemple. Je n'en ai pas parlé dans mes articles.
Donc pas de posture du héros.
Non, pas de posture du baroudeur. Vous savez, c'était fini l'époque où le grand reporter, c'était quoi ? C'était un type qui draguait les hôtesses de l'air, qui buvait des whisky à tire-larigot au bar et qui affrontait la mort. Ça nous paraissait grotesque, cette image. Donc moi, j'étais dans une génération plus pudique. Je pense aux gens de mon âge, les marques cravates et tout ça, vous n'avez jamais trouvé sous leurs plumes des éloges, etc. Donc, dire et avouer le plaisir qu'on prenait quand même, cette espèce d'étrange, c'était très difficile à dire. Et ça ne pouvait être dit, là c'est beaucoup plus facile dans un livre, parce que j'explique, je situe historiquement l'histoire, je contextualise, comment vous dire, et du coup, ça devient absolument compréhensible, quoi. Mais l'avouer comme ça dans un papier, bon, je l'ai jamais fait.
France Culture, tout un monde, Marie-Hélène Fraissé.
Monde aujourd'hui en compagnie de Jean-Claude Guilbeault qui publie Le tourment de la guerre. Alors Jean-Claude Guilbeault, on aura bien compris que vous cherchez à démasquer finalement cette posture du correspondant de guerre qui retourne constamment sur les fronts violents et qui trouve une sourde jouissance. Votre livre analyse donc ce goût de la guerre, cette passion cachée. De quelle manière pourrait-on mettre à profit cette sorte de dévoilement auquel vous vous livrez pour aujourd'hui mieux comprendre la situation de faiblesse et de trouble dans laquelle nous sommes?
C'est très important.
Face à cette violence qui n'est pas proprement guerrière, qui est une violence d'un genre nouveau.
C'est très important ce que la question que vous me posez, parce que c'est tout le but du livre en fait. Il se trouve, vous y faisiez allusion tout à l'heure, il se trouve que nous Européens ou nous Occidentaux, nous avons vécu 70 ans en paix. Les guerres existaient, et quelquefois on y participait, mais loin, loin de chez nous. Regardez, en France, il y avait l'Indochine, il y avait l'Algérie, mais sur le sol français, 70 années de paix.
Avec juste le petit frisson médiatique à la télé.
Oui, mais c'est un intervalle rarissime dans l'histoire. Je suis remonté un petit peu en arrière dans la chronologie historique. Il faut remonter au moins au début du XVIIIe siècle pour trouver un intervalle aussi long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si j'en crois les démographes, 70 ans, ça représente deux générations à peu près. Ça veut dire que pendant deux générations, nous avons désappris à réfléchir sur la guerre. Nous avons fini par...
On a zappé la guerre, quoi.
On a zappé, complètement. La guerre est sortie de notre tête. C'est-à-dire, on a fini, et je m'accuse moi-même, parce que j'ai cru, quand j'étais étudiant, j'ai cru que l'état naturel d'une société, c'était la paix. Et que la guerre était un accident. Et que bientôt, vous savez, le doux commerce de Montesquieu, on ferait du commerce pour lui faire la guerre, et ça. On était dans cette espèce de naïveté, quoi. Ce qui fait que, quand la guerre ressurgit chez nous, comme depuis quelques années, sous son double aspect du terrorisme, partout et nulle part, et de la vraie guerre, les deux s'enchevêtrent, eh ben, on trouve nos dirigeants, qui sont de ma génération, voire plus jeunes que moi, tous les dirigeants européens, on les trouve complètement largués. Ils ne savent plus comment faire. Donc, d'où ces volte-face, ces hésitations, cette espèce de désordre, et surtout, est-ce que vous rendez compte à quel point ce qui nous arrive maintenant montre l'extrême vulnérabilité de nos sociétés? Nous sommes devenus incroyablement fragiles. Mais il faudra un jour qu'on...
Fragile aussi parce que connecté.
Oui, mais fragile parce que regardez, je sais bien que c'est un exemple, je le prends pas avec démagogie, mais j'ai été bouleversé par le 13 novembre, comme tout le monde, de voir qu'une dizaine de crétins, incultes, avec la Kalachnikov ont pu faire vaciller l'État. Ça m'a quand même glacé. Et 130 victimes, c'est grave. 130 jeunes femmes et jeunes gens qui ont été tués au Bataclan, à la terrasse d'un café, etc. C'est assez bouleversant. Et donc, je comprends cette émotion. Mais en même temps, comme je m'intéresse évidemment à toutes les guerres, savez-vous que Londres, la ville de Londres, a été bombardée par la Luftwaffe de Göring pendant une année, et surtout au début, pendant des semaines ininterrompues toutes les nuits, et que chaque bombardement de Londres faisait en moyenne entre 500 et 200 morts par nuit, et que les Anglais n'ont jamais cédé. Les Anglais ont même inventé des tas de postures très british.
Oui, il y a beaucoup d'histoires.
Bah oui, du genre, on vous invite à déjeuner, s'il n'y a pas de porte, rentrez quand même. Ou bien, n'oubliez pas notre invitation pour demain soir, si l'immeuble a été démoli, renseignez-vous, on sera dans un immeuble à côté. Donc, Londres, ils ont été capables de tenir, vous comprenez, de tenir. Et au total, les bombardements de Londres et d'Angleterre ont fait 50 000 morts. Ça veut dire que par rapport à cette période où une société était capable de tenir le choc, aujourd'hui, nous sommes comme des enfants affolés. épouvantés, quoi, avec des hommes politiques qui sont tellement affolés eux-mêmes qu'ils ne sont plus capables de rassurer la population, quoi. Donc c'est très important d'être. C'est à quoi voudrait participer ce livre, en examinant un par un tous les ingrédients de la guerre, essayer d'être capable de la repenser.
Alors le besoin de violence, justement, il a quand même été formulé très très souvent, déjà dans la fiction, mais aussi Pierre Clastre, par exemple, que vous citez, plaçait au cœur des sociétés la violence. C'était pas un état exceptionnel, il disait « leur être social est un être pour la guerre ».
Absolument. Et j'ai relu Pierre Clastre, que j'avais croisé au Seuil, parce que il est mort au moment où je suis entré au Seuil, mais j'ai eu le temps de le croiser. C'était un auteur du Seuil et en le relisant, ça m'a beaucoup intéressé. Mais je dois aussi à quelqu'un qui est mort récemment, au début du mois de novembre, qui était mon ami pendant plus de 30 ans, et c'est lui qui m'a aidé à ne pas être dupe du face-à-face avec la violence, c'est René Girard, qui a fait de la violence le thème de toute son œuvre. Et c'est vrai que, et d'ailleurs je signale que le dernier livre de René Girard porte sur la guerre, qui s'appelle « Achever Clausewitz », qui est un livre magnifique. C'est pour ça que j'ai dédié ce livre à mon père, bien sûr, qui était militaire, et à René Girard.
Oui, parce que vous parcourez toute la bibliothèque de ceux qui ont quand même mis la guerre au cœur des sociétés. On retrouve Gaston Boutoul, qui était un petit peu oublié, et on retrouve Thucydide.
Ah, Thucydide. Alors ça, Thucydide, ça a été pour moi une découverte, je vous le dis franchement, parce que je suis chrétien, j'ai aucune raison de le cacher. Et j'en ai ras-le-bol d'entendre, c'est la mode maintenant, dire que toute la violence vient du religieux. C'est la nouvelle mode médiatique. Et comme je retourne assez régulièrement en Russie, ça fait éclater de rire les Russes, parce que eux, c'est l'athéisme qui a été le source de la violence. Et il y a eu à peu près un million de chrétiens tués parce qu'ils étaient chrétiens sous la période stalinienne. Et je raconte comment j'ai assisté à l'exhumation de charniers staliniens, etc. Donc j'en avais ras-le-bol d'entendre dire, parce que c'est très à la mode maintenant, toute la violence vient du monothéisme.
Et enfin, c'est vrai que la Bible n'est quand même pas très douce et gentille. Elle incite à la guerre et à la domination sur le monde.
Oui. Je pense surtout à ces intellectuels qui, c'est très à la mode, Michel Onfray et tous ceux qui le défendent, je me suis d'ailleurs expliqué de ça avec lui, qui opposent au monothéisme source de violence la douceur du polythéisme grec.
Je veux dire. Oui, alors la guerre du Péloponnèse est là pour remettre les pendules à l'heure.
Il faut que je m'intéresse aux guerres du Péloponnèse qui se sont passées 4 siècles avant Jésus-Christ. Et donc j'ai lu ce prodigieux livre qui s'appelle « Les guerres du Péloponnèse » de Thucydide, qui est un livre d'histoire phénoménal. C'est le premier grand livre d'histoire. Et j'ai lu tous les livres de commentaires de Thucydide. Et ce que j'ai découvert est stupéfiant. Les guerres du Péloponnèse, c'est des guerres entre Sparte et Athènes, n'est-ce pas? Et honnêtement, on trouve pendant ces guerres des scènes d'atrocité qui font penser à Daesh aujourd'hui. Ils faisaient la même chose, y compris les Athéniens. Être capable dans les latomies de Syracuse de laisser mourir des gens dans leur déjection, dans leurs cadavres, etc. Donc on trouve des choses épouvantables, y compris commises par les Athéniens. Donc c'est une fable d'imputer toute la violence aux religieux, c'est une sottise, c'est une pure sottise, quoi.
Alors ce qui trouble évidemment en ce moment, c'est qu'il n'y a plus de théâtre des opérations. C'est une guerre qui est là, latente dans les moindres recoins de la société. Et c'est ça qu'il faut penser en remontant en amont, c'est ce que vous semblez nous dire, vers cette violence incontournable et qu'il faut donc à toute force canaliser.
Oui, et c'est très difficile, pour deux raisons. Parce que ce qu'on appelle les états de violence, c'est une expression qui a été inventée il y a une dizaine d'années par un philosophe, Frédéric Gros, qui pensait que les états de violence allaient marquer la fin de la guerre, allaient remplacer la guerre, pour le pire d'ailleurs. Parce que les états de violence, c'est partout et nulle part, c'est ce qu'on a connu au mois de novembre et puis au moment de Charlie Hebdo. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que dans le même temps où les états de violence s'étendent au monde entier, la guerre classique revient aussi. Regardez, en Syrie, en Irak, on fait la vraie guerre. Donc les deux s'interpénètrent. Et c'est vrai, je vais vous dire pourquoi c'est très difficile à contenir. Et ça sera simplement une phrase toute simple. Comment faites-vous pour résister à des gens que la mort indiffère? Quand vous êtes, vous, occidental et que vous ne tenez pas à mourir, comment vous faites pour corriger ce que les stratèges appellent cette asymétrie belliqueuse et morale? On ne sait toujours pas comment faire.
Eh bien, travaillons à trouver la réponse. Jean-Claude Guibaud, merci pour ce tour du monde terrible qui s'appelle « Le tourment de la guerre » paru aux éditions de l'Iconoclaste. «
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun.
Tout un monde, le magazine des cultures. On termine avec Leonard Cohen, The Partisan. À la prise de son se trouvait Stéphane Desmond, à la réalisation Vanessa Nadjar. Tout un monde, chaque samedi, avec la collaboration de Claude Amont de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Freissé.
And some of them are with me.
Some of them are with me. Vincent Charpentier est avec nous sur France Culture maintenant de manière paisible. Bonsoir Vincent.
She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening. But I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Signe-toi, mais je n'ai pas peur.